Octave Mirbeau, Des artistes, saison 2, un tableau par la fenêtre. Nous avons donc, enfin, un faux millier au Louvre. De quoi nous sommes doublement fiers, car ce précieux cadeau nous le devons à l'initiative de M. Georges Lafenêtre, qui est un conservateur éminent et un exquis écrivain. C'est du moins, en ces termes flatteurs et ironiquement appropriés à la circonstance, que M. Arsène Alexandre console M. Georges Lafenêtre de cette fâcheuse aventure. Nous le devons aussi, j'aime à le croire, à la Commission supérieure des musées, étrange institution qui se compose d'amiraux, de généraux, de colonels, de vieux capitaines d'habillement et de divers autres braves fonctionnaires assez inattendus, disons-le, et sans l'autorité de qui rien ne se doit acheter, aussi bien le faux que le vrai, lesquels, d'ailleurs, s'équilibrent toujours, celui-ci plaidant pour celui-là, ainsi qu'on sait. Ô joie, ô sublimes ivresses de l'art! Il y a donc toutes les garanties officielles et nationales requises pour que ce millier du Louvre soit aussi faux qu'il est possible à un millier d'être faux, et même à n'importe quel autre tableau acheté par M. Georges Lafenêtre, avec l'approbation corroboratoire et consécutive de nos seigneurs, les membres de la Commission supérieure des musées. Malheureusement, en dépit de sa sérieuse garantie, il n'est pas absolument prouvé qu'il soit faux, ce millier. Car si M. Georges Lafenêtre dit « non, il ne l'est pas », les meilleurs experts et les plus sagaces amateurs viennent, qui déclarent à leur tour « oui, il l'est ». Or, cette dénégation ne saurait me convaincre du bien fondé de ces affirmations, et réciproquement, attendu que je me méfie des meilleurs experts et des plus sagaces amateurs, autant que des éminents conservateurs, fussent-ils par surcroît les plus exquis écrivains du monde. Et mon esprit connaîtra les rudes angoisses du doute tant que je n'aurai pas, sur ce grave débat, l'opinion de M. Chauchard lui-même, l'homme de France qui se connaît le mieux en toile et à qui ces questions de Louvre, les plus vastes du monde, sont vraiment les plus familières aujourd'hui. En attendant que la chose soit décidée d'une façon ou de l'autre, il y a de quoi rire un peu. Rions donc. Le faux millier a, durant quelques jours, subi des phases critiques véritablement extraordinaires. Jamais, je crois, un tableau ne dégringola avec une telle rapidité, des sommets où reposent les chefs-d'œuvre, dans les bas-fonds bourbeux où la justice des experts précipite les contrefaçons. Dès qu'il eut connaissance que ce millier, qu'il avait acheté au rabais, pouvait bien être un faux millier et même un vrai. Vous pensez, si M. Georges Lafenêtre fut vexé. Mais ces affaires-là sont fort embrouillées. À vrai dire, personne ne s'y reconnaît et tout le monde peut en sortir en son honneur avec un peu d'habileté et de crânerie. On a même vu ceci. Un tableau notoirement faux, consacré comme définitivement authentique à la suite d'une brutale contestation. Quand les experts se mettent dans une œuvre d'art, on ne peut pas savoir ce qu'il en résultera. Ces gens-là sont des personnages de féerie. Ils ont le don des changements à vue. Telle toile, qui jusque-là passait sans gêner personne pour être de Gainsborough, par exemple, se trouve tout à coup transformée en Jacques-Émile Blanche, sans qu'on sache pourquoi. Je pourrais multiplier les exemples. À quoi bon ? En homme qui n'ignore point ces phénomènes et la façon de les combattre ou de s'en servir selon les circonstances, M. Georges Lafenêtre opposa donc tout d'abord aux accusations vagues sa compétence artistique bien connue et, dans le style exquis qui le caractérise, du haut de cette proverbiale éminence où piédestalise ses mérites, il déclara que ce tableau de Millet était un des plus puissants tableaux de Millet, un pur chef-d'œuvre, que ça se voyait bien, et qu'ils en répondaient, lui, Georges Lafenêtre, éminent conservateur du Louvre, et eux, les vieux capitaines d'habillement de la Commission supérieure des musées. S'il eût persisté dans cette attitude, le tableau de Millet eût, lui aussi, persisté dans la sienne, et rien n'eût été changé dans l'harmonie des catalogues. Par malheur, M. Georges Lafenêtre, troublé, croyant peut-être aux réalités d'une responsabilité artistique dont personne ne lui demandait à établir les comptes, commit l'incompréhensible et irréparable faute de faire quelques concessions aux experts. Il pensait les amadouer, il ne fit que de les déchaîner. Les accusations semblant se préciser, il condescendit, avec quelle fatale imprudence, à lâcher son Millet, non comme Millet, mais comme chef-d'œuvre de Millet. Et il expliqua, oh, n'expliquez jamais, que si ce Millet n'était pas absolument le chef-d'œuvre de Millet, cela tenait à ce que ce Millet n'était pas, de toute évidence, un Millet de la bonne époque, mais un Millet de l'époque de tâtonnement. Il y a un moment critique dans leur vie où tous les peintres tâtonnent, où ils ne savent pas ce qu'ils font, où ils vont et s'ils vont quelque part. Millet avait lui aussi connu ce dangereux moment de désorientation. Le tableau du Louvre en était la preuve. Alors, pouvait-on, en toute justice, demander à un Millet de l'époque de tâtonnement d'être ce qu'est un Millet de la bonne époque? Non. On ne le pouvait pas. Une fois sur cette pente, la glissade est rapide. Les contestations affluèrent de toutes parts et se firent non plus insinuantes et perfides, mais catégoriques et nettement accablantes. M. Georges Lafenêtre perdit la tête et, de concessions en concessions, il finit par avouer que son Millet était, en effet, un affreux Millet, une croûte indéniable, qu'il le savait mieux que personne, puisqu'il l'avait acheté comme tel. « Pourquoi achetez-vous des croûtes ? » lui objecta-t-on sévèrement. « Le difficile, répondit M. Georges Lafenêtre, de plus en plus troublé, n'est pas d'acheter des œuvres véridiques et belles, c'est au contraire d'en acheter de fausses et de laides. Ainsi, tenez, les cartons de Raphaël, que le musée de Kensington possède, eh bien, le Louvre pouvait autrefois les acheter pour presque rien. On était venu les lui offrir. Il n'y avait qu'à les prendre en échange de quelques billets de 1 000 francs. Il s'en garda bien, parce que c'était indubitablement des œuvres sublimes et d'une indiscutable authenticité. Quel mérite à cela, je vous prie ? Et il professa. Un musée est un musée. J'entends par là qu'un musée doit rechercher de préférence des œuvres ratées et qui ne signifient rien. Sa vraie mission consiste à ne montrer au public que des croûtes, d'indéfectibles croûtes. C'est par là que le public s'initie à la connaissance du chef-d'œuvre et au mystère de l'art. Ces croûtes sont pour lui une merveilleuse éducation. C'est, si j'ose dire, comme un voile levé lentement sur ce mystère. S'il ne regarde jamais que de belles choses, quelle idée spéciale voulez-vous qu'il se fasse de la beauté ? La beauté est une chose relative et qui n'existe pas en soi. Je la définis ainsi. Le contraire est la laideur. Et rien n'est plus juste. Ainsi, tenez, je suppose, voici une belle femme. Pourquoi la dites-vous ? Pourquoi la sentez-vous belle ? Parce qu'elle est belle ? Erreur ! Parce que tout à l'heure, vous avez remarqué à côté d'elle une femme laide. vous n'êtes arrivé à la notion de cette beauté que par le chemin de cette laideur. Ce que je vous dis est rigoureusement scientifique. Eh bien, il en est des tableaux comme des femmes. Ils ont besoin de ce que, familièrement, vous appelez des repoussoirs. Ce sont les vilains tableaux qui font valoir les bons. Et plus les vilains sont vilains, et plus les bons sont bons. Aussi, ne suis-je pas exclusif, comme on le croit généralement. J'admets que, dans un musée, il y ait, par-ci, par-là, quelques bonnes toiles. L'important est qu'il y en ait beaucoup de mauvaises. Revenant à son millier du Louvre, M. Lafenêtre ajouta « En ce qui concerne ce tableau, je ne puis concevoir qu'on ose discuter son authenticité. Mais, monsieur, son infériorité elle-même est une preuve éclatante de son origine. Je ne m'y suis pas trompé, moi, en l'achetant. Il n'y avait pas à douter un seul instant qu'il fût de Millet, attendu que, s'il n'avait pas été de Millet, s'il avait été de n'importe qui, il eût été bien meilleur qu'il n'est. Pourquoi voulez-vous que des faussaires exécutent des mauvais tableaux? Ils en font toujours d'excellents, et il n'y a pas apparence qu'on puisse rencontrer quelque part un aussi absolument mauvais tableau que celui-là. L'Angélus, peut-être. D'abord, l'Angélus est faux, archi-faux. Je veux dire qu'il n'est pas de Millet, ou plutôt qu'il n'est plus de Millet, qu'il est de tout le monde, car le diable seul sait de qui il est aujourd'hui. À force d'avoir été réparé par celui-ci, maquillé par celui-là, rentoilé par cet autre, car il fut longtemps bien malade, et sa peinture s'écaillait, tombait par petites plaques farineuses, exfoliatrices, comme une peau d'eczémateux. On pourrait compter les coups de pinceau du vieux maître, et le compte en serait vite fait, croyez-moi. Et quoi? C'est ce tableau sur qui s'exerça la patience de tant de retapeurs en vieux neuf? Ce tableau qui, ironie merveilleuse, durant la vente secrétant, ne fut plus un tableau, mais l'incarnation même de la patrie? C'est ce tableau, fait de pièces et de morceaux, de reprises et de rebouchages, qu'on ose opposer au mien pour en contester l'origine? La chose est forte! Ah, laissez-moi rire, je vous prie! Et admirons ensemble, voulez-vous, le patriotisme millionnaire de M. Chauchard. L'affaire en est là aujourd'hui. Ce Millet est-il de Millet, ou bien est-il d'un autre, de quelqu'un ou de personne? On ne le sait pas encore. Mais ne croyez pas que j'ai inventé quelque chose dans ce récit. Je n'ai fait que résumer, en les commentant, les déclarations que M. Georges Lafenêtre voulut bien confier à un rédacteur du journal, lequel les consigna, avec une bienveillance amusée, dans sa feuille. Le Gaulois, 22 septembre 1896.